blanche.
Hello à tous. Parce que la vie d'une femme entrepreneur peut aussi passer par la case maternité, je m'absente quelques semaines et confie les Sista d'une ex 40 à mon associé Thomas. Je vous dis à très vite et vous souhaite une très belle écoute.
Mesdames, messieurs, bonjour. Merci Solène pour le passage de relais. À toi, ma chère associée qui doit patienter 9 mois pour une rencontre, j'imagine, tant attendue. J'ai pour ma part dû attendre 9 ans, 7 mois, 8 jours et 2 heures pour retrouver mon invité du jour, Fleur Pellerin. Bonjour.
Bonjour.
La première fois où je t'ai rencontré, on était également entouré de micros. Le studio était drastiquement plus petit. Et tu étais alors, depuis peu, ministre délégué au PME, à l'innovation et à l'économie numérique. C'était le 28 août 2012.
Oh là là, et la veille de mon anniversaire.
Exactement. D'ailleurs, on ne l'a pas fêté, mais on va se rattraper. Et donc, depuis, de l'eau, je dirais même un fleuve, a coulé sous les ponts, non ?
Oui, je crois qu'on peut dire un gros fleuve.
Celui grâce à qui on est là aujourd'hui, on a la chance de t'accueillir au micro de 40 nuances de Sista, c'est Franck Le Bouchard, c'est le CEO de Devialet, l'entreprise d'une ex 40 au son parfait à qui on a demandé de choisir une femme entrepreneur qu'il admire. Et attention, suspense, son choix s'est porté sur toi. On va donc revenir ensemble sur ton parcours de vie qui t'a amené aujourd'hui à la tête de la société de gestion de fonds Corelia Capital, avec déjà de belles réussites à votre actif. Si le programme te va, on y va.
On y va.
40 nuances de Sista. Les Sista d'une ex 40 comme vous ne les avez jamais entendues, animées par Solène Etienne, cofondatrice du Brain Studio Feuille Blanche.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants d'une ex 40, nous avons voulu avec Olivier et Thomas féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les Sista d'une ex 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama.
Bon, tu vois que j'arrive pas au niveau de la compétition en termes de voix avec Solène. Avant de revenir sur ce qui a fait la femme et l'entrepreneur que tu es, je te propose d'entrer dans le vif du sujet de ta présence ici. Un entrepreneur, je le disais, d'une ex 40, et d'ailleurs, c'est pas le seul, dithyrambique sur l'action de Corelia Capital pour le développement de son business. T'as mis à l'honneur, donc une explication de texte s'impose, je pense.
Pitch over pitch. Pitch over pitch.
Corelia, pas tout à fait un fonds, pas tout à fait un lever, pas tout à fait une boîte de business développement, c'est quoi ?
Ah bah c'est complètement un
fonds.
C'est
tout ça ?
C'est complètement un fonds. Non, c'est que le premier. Donc c'est vraiment un fonds d'investissement qui se spécialise dans une phase assez spécifique du développement des entreprises qu'on appelle le late venture ou late stage ou grosse. Enfin, chacun a un peu sa définition. Mais en gros, c'est un fonds qui va investir à l'échelle pan-européenne dans des entreprises tech qui ont un potentiel mondial et qui vont plutôt être des entreprises qui sont pas early stage, qui lèvent pas leur série A, pas leur série de seed, mais plutôt leur série B, leur série C ou suivante. Donc c'est des entreprises qu'on va surtout aider à se développer, à scaler, comme on dit, à passer à l'échelle. Souvent, il y a une dimension d'internationalisation, donc on va les accompagner dans cette phase. Et pourquoi on a décidé de se concentrer là-dessus ? C'est parce que moi, d'expérience, j'avais observé qu'il y avait un petit manque, un petit vide dans la chaîne du financement à ce niveau croissance late stage, et que c'est une des phases les plus difficiles à gérer pour les entrepreneurs.
Donc, il y avait un trou dans la raquette en termes d'offres.
Il y avait un trou.
Donc, une place à prendre. Ils ont, à ce moment-là, de leur croissance et de leur développement, des problématiques spécifiques. Est-ce que ça amène aussi à des problématiques pour le fond que vous êtes
complètement
de votre côté?
Ouais, c'est vraiment... Enfin, dans mon équipe, il y a des gens qui viennent plutôt de l'early stage. Ils disent que ce sont des métiers qui sont complètement différents. Ce n'est pas du tout le même support qu'on apporte. Je ne parle pas de l'argent. L'argent, c'est commoditisé. Mais au-delà de l'argent,
c'est autour,
le support, la manière dont on accompagne les entrepreneurs, ce n'est pas du tout la même chose quand on a affaire à une boîte qui est vraiment au tout début, ou une boîte qui est déjà assez grosse, qui fait du revenu, qui est proche de la profitabilité, et en fait dont l'objectif principal, c'est vraiment de conquérir des marchés internationaux, c'est de scaler, c'est de changer sa gouvernance, c'est d'étoffer ses équipes, d'attirer des talents. C'est plus du tout les mêmes types de, non seulement de compétences, d'enjeux, mais donc pour les investisseurs qui accompagnent, c'est pas les mêmes enjeux non plus.
Et alors du coup, tu dis effectivement, l'argent c'est une chose, mais ça va évidemment plus loin que là, c'est-à-dire que vous allez jusqu'à trouver qui va accompagner la gouvernance, enfin, ça va jusque dans ce... C'est pas un détail. Hein,
non, mais... non, c'est pas un détail. Il y a plusieurs types de fonds. Il y a des fonds qui sont plutôt des fonds financiers qui vont apporter l'argent, participer à des tours de table et après être plutôt passifs. C'est pas du tout un jugement de valeur, mais il y a des investisseurs pour qui c'est plutôt ça, la thèse d'investissement et de comportement post-investissement. Nous, on est un fonds qui est très, ce qu'on appelle hands-on, donc les mains dedans, les mains dans le cambouis. Et ce qu'on aime bien, en fait, c'est vraiment être proche des entrepreneurs ou des fondateurs ou des CEO et les accompagner.
Vous dites sur le site. Vous dites aussi thesis-driven investors. Donc, évidemment, on comprend tous les mots. Concrètement, c'est quoi le sens qu'il y a derrière ?
Bah, c'est ce que je disais à l'instant. Donc, c'est vraiment une cible assez particulière en termes de maturité. Une cible particulière aussi en termes de priorité business, c'est-à-dire que nous, on vise vraiment des entreprises qui ont une vocation internationale. Donc, il y a des entreprises qui sont géniales, mais qui sont plutôt des entreprises locales. Nous, on va plutôt aller chercher des entreprises qui sont en train de s'internationaliser, parce que la proposition de valeur très spécifique que l'on offre, et qu'on est un peu les seuls du marché à proposer, c'est d'aider ces entreprises dans leur déploiement en Asie plutôt du nord-est, un peu hors Chine, donc Corée, Japon, et puis ultérieurement Taïwan, Indonésie, enfin sur des marchés qui sont des marchés en croissance, où il y a des débouchés intéressants et où on va les accompagner, leur ouvrir des portes, leur trouver des partenaires, des clients, etc. Donc nous, c'est vraiment ça qu'on va venir apporter.
Tu dis qu'il y a de la croissance. Et aujourd'hui, les Français principalement et les boîtes européennes que vous accompagnez sont encore trop peu présents sur ces marchés?
Bah, c'est pour ça que moi c'est un truc que j'ai constaté quand j'étais ministre, mais aussi c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité vraiment me concentrer sur cette phase là de la croissance des entreprises, parce que si on veut avoir des champions mondiaux, il y a bien un moment où le marché français, le marché domestique, il est trop petit. Alors c'est parfois un piège parce que il est quand même assez grand, il est plus grand que le marché estonien ou que le marché des Pays-Bas, etc. Et donc la France, ça peut être aussi un peu un piège parce que le marché, il y a quand même beaucoup d'habitants, etc. Donc on peut très bien, enfin, tout le monde n'est pas obligé de vouloir construire un géant mondial. Et donc, ça peut être parfois un piège.
En tout cas, quand on veut être un géant mondial,
on veut être un géant mondial, si on veut être une décacorne, à un moment, probablement, il faudra passer par la case internationalisation. Et c'est là que nous, on souhaite vraiment apporter quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire l'angle Asie.
Pourquoi on n'y allait pas ?
Pourquoi on n'y allait pas ? Parce que, c'est vraiment une phase qui est extrêmement difficile. Ça veut dire qu'il faut aussi changer un peu sa méthode de fonctionnement, sa gouvernance. Il faut faire venir des talents étrangers. Quand on est tous entre Français, qu'on parle français et qu'on raisonne comme des Français, c'est pas toujours facile de faire venir des gens qui vont challenger un peu vos idées reçues, vos façons de faire. Donc, pour un dirigeant, faire venir du talent étranger, c'est vraiment déjà un challenge. Et ça peut paraître anecdotique, mais ça l'est pas du tout. Et quand on est qu'entre Français, je pense que c'est assez difficile de scaler une boîte à l'international aussi. Donc il y a cet enjeu de management qui est vraiment un enjeu extrêmement complexe. Et il faut vraiment avoir la palette de compétences quand on est un dirigeant pour être capable de gérer cette phase-là. La croissance, hein, la croissance des équipes, c'est pas évident. C'est assez sympa quand on est comme une petite famille, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. Et puis quand on passe à des centaines, 200.
C'est déjà un sujet en France, mais à l'international, c'est ça.
C'est vraiment pas évident. Et donc on est confronté à des problématiques qui sont très différentes, qui sont difficiles. Et je pense que jusqu'à présent, il y avait d'abord, on manquait un peu d'argent local, donc c'est dans la raquette du financement, on manquait un peu d'argent local pour accompagner les entreprises au moment des séries B et C suivantes, et puis il y a peu d'accompagnement en fait pour aider les entreprises dans cette conquête des marchés étrangers, mais ça change drastiquement.
Tu disais faire venir les talents, il y a aussi la question d'y aller et de trouver les talents là-bas, c'est quoi la... Généralement, alors j'imagine bien qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'aller conquérir ces pays, mais il faut être présent sur place, on peut tout gérer depuis la France, depuis son siège ici. C'est comment on fait les premiers pas là-bas, comment on crante le fait que il y a une opportunité de marché et qu'on peut s'y développer.
Il y a plusieurs approches. Alors déjà, il y a plusieurs approches et puis il y a plusieurs types de produits.
Oui, il y a autant d'approches que de boîtes.
Une boîte SaaS, ouais. C'est pas la même chose qu'une boîte qui fait du retail, comme De Vialet par exemple. Donc en fait, ça va vraiment être un peu au cas d'espèce. Mais pour bien développer un pays, en général, il faut quand même mieux avoir vos commerciaux sur place, avoir des gens qui comprennent un petit peu comment fonctionnent les consommateurs ou les clients potentiels.
Pour l'écosystème.
Voilà, c'est très important. En fait, on a bien vu, on était tous coincés chez nous pendant cette pandémie. On voit bien qu'on ne travaille pas de la même façon. On est moins productif, on est moins créatif et on comprend moins les environnements différents si on n'a pas l'occasion de s'y plonger en personne. Donc, on parlait de Franck tout à l'heure et de Vialet. De Vialet, c'est une entreprise, quand on est rentré, parce que c'est mon premier investissement, donc c'est une boîte qui a beaucoup d'importance pour moi. C'est vraiment le premier investissement de Corellia Capital. Et quand on l'a fait, l'entreprise devait faire moins de 10% de son chiffre d'affaires hors de France. Aujourd'hui, c'est même plus de 55%. Donc voilà une entreprise qui a réussi à s'internationaliser.
Tu disais aussi, donc, tout à l'heure, il y avait un trou dans la raquette sur l'investissement au moment de croissance de ces boîtes-là. Ils faisaient comment avant ? Rien ?
Bah, ils ramaient énormément. Il y avait de l'argent qui venait souvent de l'étranger. C'est encore beaucoup le cas. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on voit, on va peut-être parler de l'inflation, l'inflation des valorisations, mais on voit aujourd'hui des séries A qui atteignent des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. C'est totalement délirant. C'est-à-dire que moi, à l'époque où j'étais ministre, c'est pas une série B, c'était 20, 30 millions d'euros, quoi. Et donc, à l'époque déjà, c'était pas facile pour les Français de se positionner sur ces tours. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup plus. Il y a eu des initiatives successives qui ont fait qu'il y a des fonds de late stage un peu plus gros qui se sont constitués, des fonds pan-européens, des Atomico, des Balderton, du Euraseo, etc., avec plus d'argent et donc plus de capacité à investir sur des tours plus importants, plus larges. Mais du coup, ce qui se passait, c'est que, on voyait souvent arriver des fonds étrangers où la BPI devait venir parce que finalement, il n'y avait pas d'acteur local qui arrivait à se positionner sur ces tours. Donc, il y avait un peu une sorte de défaillance de marché, quoi. Mais ça s'est vraiment corrigé.
Dans la relation entre l'entrepreneur et l'investisseur, est-ce qu'il y a une différence entre lever 3 millions, lever 30 millions et lever 300, 500 millions ?
Oui. C'est pas du tout la même chose. Les personnes à qui vous allez vous adresser, le type d'investisseur que vous allez cibler, parce qu'on fonctionne, du côté investisseur, on fonctionne un peu comme ça par catégorie. Donc il y a ceux qui sont plutôt positionnés sur les tours très importants, le late stage, ceux qui sont plus early.
Je parle pas du positionnement, mais de la manière de bosser ensemble, les attentes qu'il peut y avoir vis-à-vis de l'entrepreneur où finalement j'investis, j'attends la même chose que quel que soit finalement le montant investi.
Je pense que du point de vue de l'investisseur, il y avait un moment probablement une différence totale de prise de risque. C'est-à-dire que si vous investissez plusieurs lits, on vous disait en général, vous allez faire 9 paumes et une boîte qui va vous retourner votre fonds. Et donc, c'est avec cette boîte, ce succès que vous allez... Donc, c'est pas du tout le même profil de risque que quand vous êtes en late stage avec des entreprises qui sont beaucoup moins risquées et qui peuvent difficilement faire faillite parce qu'elles ont déjà du chiffre d'affaires, elles ont un modèle d'affaires qui est prouvé. Ouais. Et donc, leur enjeu, c'est plus un enjeu d'exécution d'un train de croissance. Ouais. Donc, c'est pas du tout la même approche du risque. C'est pas probablement pas la même relation du coup qu'on noue avec le fondateur. Probablement quand c'est plusieurs lits, le fondateur il joue un peu la survie de sa boîte. Donc on n'est plus du tout dans les mêmes, je pense, les mêmes rapports intimes, psychologiques, etc. Et après du point de vue de l'entrepreneur, lui je pense qu'en fait il a besoin d'être accompagné par différentes typologies d'investisseurs au fur et à mesure de sa croissance. Au début il a peut-être besoin de quelqu'un qui va vraiment être là présent au quotidien pour donner des conseils, y compris des conseils de relations entre associés, enfin des choses vraiment très day-to-day. Et puis, plus la boîte va grossir, plus elle aura des enjeux peut-être de lobbying, de je sais pas quoi, d'ouvrir des bureaux à l'étranger et donc d'avoir du network un peu international. Donc en fait, il faut à chaque fois, quand on est entrepreneur, je pense, trouver les investisseurs qui vont pouvoir apporter la valeur qui est pertinente compte tenu de la maturité de l'entreprise.
On entend des entrepreneurs qui se questionnent sur est-ce qu'à un moment, je suis le bon entrepreneur pour continuer d'accompagner la boîte. Est-ce que à la même image de cet entrepreneur, en tant qu'investisseur, à un moment, il faut se dire est-ce que je suis encore capable de l'accompagner ? Est-ce que là, c'est plus qu'une question de montant pour poursuivre ou il y a aussi une question d'expertise et de...
Alors nous déjà quand on est investisseur, on a quand même une durée limitée, c'est-à-dire qu'on a une période d'investissement et puis après le fonds, il a pas une durée, enfin à part les fonds evergreen mais en général c'est 10 ans. Alors 10 ans c'est quand même assez long, ça permet d'être quand même d'accompagner sur un long bout de chemin les entrepreneurs, mais néanmoins, on sait qu'il y a un moment où on va devoir sortir. Donc de toute façon, on vit avec cette idée que on investit mais à un moment il faudra sortir pour rendre l'argent à nos LPs. Donc on a déjà un horizon qui est borné dans le temps et effectivement, je pense qu'il y a des investisseurs qui ont été, je sais pas, des business angels, donc qui étaient c'était quasiment du love money au départ, donc ils ont accompagné une idée, quelqu'un qui avait une idée qu'ils trouvaient géniale.
C'est du gros love,
mais à un moment, ils se rendent compte aussi, ça arrive très souvent dans la vie des entreprises, quand l'entreprise croît, se professionnalise, etc., ils voient bien qu'ils sont moins utiles qu'au début et probablement moins utiles que d'autres plus structurés qui pourraient apporter autre chose. Donc oui, souvent, on voit des gens qui se disent, moi, je revends mes parts à ce moment-là parce que je pense que j'ai fait le bon bout de chemin et maintenant, je laisse la place à d'autres qui sont plus professionnels ou qui sont plus pertinents à ce stade de l'évolution de la société.
Un mot sur votre portfolio, il y a de sacrés noms, hein, dont De Violette, tu en as parlé. C'est d'ailleurs pas les seuls du Next 40. J'ai vu qu'il y a notamment ABTesti, Job Teaser, qu'on a eu d'ailleurs le plaisir de recevoir à ce même micro. Et j'aimerais qu'on aborde ensemble la question des perspectives de développement pour ces boîtes-là. Et justement, Franck a tenu à te poser une question à ce sujet. Je me dois quand même de préciser que si l'homme à la tête de l'entreprise au son parfait a un son si imparfait, c'est un peu de notre faute, hein, ce qu'on l'a enregistré à l'occasion du dernier Vivatech, donc dans le brouhaha ambiant, mais c'est normal quand ce sont des bons événements, il y a du monde et il y a du bruit. Donc on écoute Franck.
Vous avez un message.
Fleur, moi, tu as fait beaucoup pour nous sur la Corée du Sud. J'aimerais que tu me racontes comment tu vas faire pour toutes les autres boîtes de ton portefeuille. Aujourd'hui, quand je regarde le Next 40, il n'y a que De Violette qui est aussi fort en Asie. Je pense que je voudrais savoir comment tu peux les aider tous à faire ce que tu as fait avec nous.
Grosse responsabilité, Fleur.
Alors, d'abord, il y a d'autres entreprises du portefeuille qui sont très fortes en Asie. Je pense en particulier à une que tu n'as pas nommée, qui est aussi dans le Next 40, Ledger.
Tout à fait.
Qui était juste à côté, d'ailleurs, avant, dont les bureaux étaient juste à côté. Ledger marche extrêmement bien. J'ai plus en tête exactement les chiffres, mais fait une énorme partie de son chiffre d'affaires à l'international, déjà. Beaucoup aux États-Unis, mais beaucoup en Asie. Vous savez que en Asie, les cryptos ont un petit temps d'avance. Hein. L'adoption par le grand public des cryptos a été bien plus substantielle que partout ailleurs. Donc, Ledger marche très bien aussi en Asie. Et je pense qu'il y en a d'autres. Je réfléchis un petit peu en vous parlant. Après, il y en a certaines dont c'est pas vraiment la vocation. Tu parlais de Job Teaser à l'instant. Job Teaser, quand on a investi, on a vraiment adoré. On a eu un coup de cœur pour l'équipe. On a trouvé que le produit était hyper smart. C'est une plateforme de mise en relation de jeunes diplômés et d'entreprises qui cherchent à recruter. Donc vraiment très très belle entreprise. Eux, ils n'ont pas tellement d'angle asiatique en fait. Et on le savait. C'était un parti pris. On a quand même fait le pari d'investir dans cette équipe. Eux, leur angle d'internationalisation, c'était plutôt Europe d'abord, Allemagne, Royaume-Uni, etc. Si jamais l'Asie arrive, ça sera vraiment dans plus longtemps.
J'imagine qu'il y a aussi des talents et des entreprises en Asie, mais que déjà, on se concentre sur l'Europe.
Nous, on essaie de se focaliser dans notre doctrine d'investissement sur des entreprises qui ont un angle asiatique qui soit immédiat ou à plus long terme. Et donc, effectivement, on essaye après de faire beaucoup de choses. Donc là, Franck disait qu'on avait fait beaucoup de choses pour De Violette. Et c'est vrai, on a fait vraiment énormément de choses, mais très hands-on. Hein, là, pour le coup, on a trouvé le distributeur, on a aidé à faire des recrutements locaux, etc. Donc, on a organisé beaucoup de rendez-vous avec des gros conglomérats, Samsung, LG, Hyundai, etc. Mais on fait aujourd'hui, on a investi, par exemple, dans Investir Collective, que tu n'as pas cité non plus, tu l'as oublié.
Non, mais c'est pas que j'ai oublié, mais c'est après, la liste commence à être
d'accord.
longue.
Non, mais dans notre portefeuille, on en a 6 ou 7, donc on est très contents. Et bref, donc ces entreprises sont des entreprises luxury, second hand, C2C, qui ont un potentiel incroyable en Asie. Donc on est en train d'aider massivement Wallapop, qui est le bon coin espagnol, et Vestiaire Collectif, par exemple, dans des synergies avec l'Asie. Donc elles peuvent être BizDev, elles peuvent être transfert de technologie, etc. Il y a plein d'aspects et on essaie de travailler sur tout. Et que Franck se rassure, on y passe beaucoup de temps. En ce moment, ça nous occupe énormément. Donc ça va être dur, mais on va y arriver.
Tu parles des boîtes européennes, en l'occurrence une boîte espagnole. En France, ton nom forcément résonne, ancienne ministre. Est-ce que c'est aussi facile, c'est la même approche quand tu vas chercher des boîtes européennes dans d'autres pays où forcément on est parfois un peu moins connu?
C'est un peu la même approche. Alors, on a fait un énorme effort au début parce que on a fondé la boîte en 2016, en fin 2016. Donc, évidemment, on était une jeune marque. Personne ne nous connaissait. Mon nom était connu en France. Mais effectivement, on a fait des investissements dans 7 pays, en Allemagne, en Estonie, etc. Et donc, ce qu'on a fait avec l'équipe de Corellia, c'est qu'on a essayé vraiment de mettre beaucoup d'efforts dans le fait de développer nos réseaux locaux. Donc, chacun était responsable d'une zone, hein, dans toute l'équipe. Et donc, il y en a un qui était Europe, Suisse, Autriche, une autre qui était pays scandinave, etc. Et donc, on est allé, on a fait des conférences, on est allé à tous les meet-up, on allait rencontrer des gens, grenouiller, etc. Et du coup, en fait, c'est quelque chose qui a été payant, qui a vraiment marché, parce qu'on a fait, c'est comme ça qu'on a pu investir dans Bolt, par exemple. Et dans Bolt, c'est assez intéressant, parce que ex-Taxify, donc le seul concurrent européen de Uber, qui est une entreprise qui marche, mais merveilleusement bien, fondée par un Estonien. Et là, on était les premiers VC à rentrer dans l'entreprise. En fait, il n'y avait que des corporates, il y avait Daimler, il y avait Didi, etc. Mais il n'y avait pas de VC ici. On a été les premiers et maintenant, il y en a plein, y compris des Américains. Et en fait, ce qui a plu, je pense, au fondateur de Bolt, effectivement, il n'était pas tout à fait au fait de ma carrière, etc. Mais il a vu aussi une combinaison dans l'équipe. Il y a mon associé Antoine qui vient de la banque d'affaires, qui a fait beaucoup de M&A, qui a fait des IPO. Donc, je pense que le mec de Bolt s'est dit, bah tiens, peut-être si un jour je veux faire une IPO, c'est utile pour moi d'avoir un type comme ça dans proche. Il a vu aussi que son activité, c'est aussi peut-être de refaire des trottinettes, donc c'est relations avec les collectivités locales. Et donc, relations avec des collectivités locales, c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui connaît un peu cet environnement. Ouais. C'est une activité où il y a de la régulation, il y a des enjeux sur les chauffeurs, leur statut social. Donc, avoir quelqu'un qui comprend aussi la réglementation, c'est pas mal. Donc, il a vu en fait un combo de compétences qui, indépendamment de l'angle asiatique, l'a vraiment intéressé. Et donc là, c'est, par exemple, c'est pas le fait que j'étais connue en Estonie. Mmh. Je ne l'étais pas, je te rassure. Mais en fait, il a vu l'utilité que pouvait avoir notre palette de compétences assez originale.
On parle des scale-up, on parle des licornes. Plus largement, toutes les boîtes tech donc, ne sont pas au Next 40, car effectivement, le palmarès porte bien son nom. Et s'il y a beaucoup d'appelés, il n'y a que 40 élus chaque année. Mais l'écosystème bouge beaucoup. Et à ce sujet, on a une question de Christophe Négrier, notre partenaire à la tête d'Orac France. On l'écoute.
Vous avez un message.
Bonjour Madame Pellerin. En 2013, vous lanciez le mouvement de la French Tech, une magnifique initiative pour soutenir l'écosystème français des startups du numérique. Alors aujourd'hui, quel regard portez-vous sur cet écosystème ?
Alors, je porte un regard assez vraiment satisfait parce que le chemin qui a été parcouru en 10 ans, que ce soit en termes d'ambition, en termes de... On parlait du nombre de licornes, je ne sais pas combien il y avait de licornes à l'époque, il devait y en avoir une ou deux, il devait y avoir vente privée, peut-être de la Blacar. Ouais. Et donc, le degré d'ambition des fondateurs, de cette jeune génération qu'on voit arriver aujourd'hui, est formidable et annonciatrice d'une étape ultérieure où, à mon avis, on verra des décacornes, etc. C'est vraiment... il se passe quelque chose qui est un momentum, un mouvement qui est vraiment très positif. La mentalité a changé, les gens sont plus agressifs au bon sens du terme, c'est-à-dire ont plus envie de se projeter à l'international. Je pense que sur le financement, cette vallée de la mort du financement ou trou dans la raquette dont je parlais tout à l'heure, a été quand même...
Ça bouge.
A quand même bougé. La BPI a fait énormément pour structurer aussi l'industrie du capital risque en fonds de fonds et aussi dans les investissements directs. Donc, franchement, quand je regarde l'écosystème il y a 10 ans et maintenant, mais je me dis, c'est incroyable ce qui s'est passé. Alors après, il faut passer à l'étape d'après.
Je disais, nous, on s'est parlé en 2012, donc ça commence à dater. À l'époque, on disait tout le temps, on n'est pas au niveau des investissements de ce qu'on peut trouver, notamment aux États-Unis. On n'y est pas encore non plus. Où on y est ?
Non, on n'y est pas encore non plus, mais on a franchement... Alors, je ne sais pas, j'avais les statistiques à l'époque, je ne les ai plus maintenant. Je crois que le rapport entre États-Unis et Europe en termes de montant, c'était de 1 à 8, quoi. Alors, je ne pense pas du tout que ce soit de 1 à 8 aujourd'hui.
C'est
pas
non plus 1 à 1,
mais je pense que ça s'est réduit. Et surtout, la France, au sein, dans l'Europe, s'est vraiment repositionnée. C'est-à-dire qu'on est vraiment au coude à coude maintenant avec les Anglais et les Allemands, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 10 ans. Donc, notre écosystème n'a pas du tout à rougir vis-à-vis des écosystèmes concurrents ou co-pétis. Au niveau européen. Je pense que maintenant, Paris, c'est vraiment... c'est pas en dessous de Berlin, c'est pas en dessous... Et en fait, aujourd'hui, en réalité, il n'y a plus tellement de notions de hub. C'est-à-dire qu'on a vu tellement de licornes ou de boîtes avec énormément de succès naître en Roumanie, en République tchèque, en Estonie, dans des pays minuscules avec très peu d'habitants, qu'on voit bien que maintenant, finalement, l'innovation, elle est partout. Et nulle part en particulier. Donc, c'est ça qui est chouette aussi en Europe.
Il y a 3 semaines, on a reçu l'un des fondateurs de Loomaps. Eux, ils ont démarré à Tassin la demi-lune.
Ouais, je les connais. Ouais.
Moi, je ne connaissais pas Tassin la demi-lune. Eux, je les connaissais, mais comme quoi, effectivement, on peut créer des gens un peu partout. Si ça te va, je te propose qu'on change de rubrique avec cette transition.
Française, français.
Je propose à l'ancienne ministre de prendre du grade. Demain, tu es présidente. Si tu as une mission, une action, une loi à faire passer, qu'est-ce que tu veux faire bouger ?
Oh là là.
Directement lié ou complètement pas lié à tes sujets aujourd'hui avec Aurélien ?
Alors, est-ce que je peux être présidente un peu du monde entier ?
Allez, vas-y.
Parce que moi, il y a quand même un truc qui
Ici,
m'a très longtemps
pouvoirs,
frustrée.
On fait ce qu'on veut.
C'est sous l'influence un peu de gens vraiment inspirants comme Tim Berners-Lee, je ferai de la régulation un peu. Je ferai de la régulation des GAFA. je ferais quelque chose qui empêcherait en fait un certain nombre d'entreprises. Ça s'adresse, c'est pas contre les Américains ou contre les Chinois, ce qui empêcherait en fait des entreprises de prendre des positions de marché trop dominantes et notamment des positions sur plusieurs marchés adjacents ou parallèles. Parce que je trouve que dans l'économie de la donnée avec le métaverse, je pense que ça va devenir encore pire. Le type et la nature et le nombre de données qu'on va pouvoir collecter sur les gens va encore, je pense, changer de nature et de dimension. Et je pense qu'il faut vraiment protéger les gens contre une exploitation non maîtrisée de leurs données. Et en fait, le pouvoir de marché des entreprises qui maîtrisent ces données et les algorithmes qu'il y a derrière doit à un moment être bridé. Je pense que
Partie d'ailleurs des combats des entrepreneurs de France Digitale.
Absolument, mais c'est un combat qui est très compliqué parce qu'il est techniquement, juridiquement compliqué, parce qu'il y a le cadre européen, donc c'est pour ça que je voulais être plutôt maître du monde pour prendre cette première, pour avoir cette première initiative, mais c'est vraiment, c'est un sujet qui n'est pas de politique traditionnelle, donc c'est très compliqué, c'est plus de la politique antitrust traditionnelle, c'est pas de la politique de privacy traditionnelle. Aujourd'hui, en fait, on a affaire à des entreprises, des business models, des modèles d'affaires qui sont totalement inédits en réalité et dont on a du mal en fait à comprendre la signification, l'implication, etc. Et donc ça, moi je pense que on peut difficilement compter sur les autorités de régulation et les gouvernements pour prendre les bonnes mesures parce que elles ont toujours, et c'est pas une critique, hein, mais j'ai fait partie aussi de ces gouvernements qui avaient toujours un peu un temps de retard sur l'innovation et c'est normal parce que c'est compliqué à comprendre. En plus là, avec le Web3, je pense que c'est encore plus c'est encore plus sophistiqué et plus complexe. Mais donc, je trouve qu'il y a aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins. Et il y a du très bon qui peut sortir du Web3, mais il y a potentiellement aussi du très inquiétant. Donc, voilà, si j'étais maître du monde, j'essaierais de trouver de la smart régulation, une régulation intelligente pour ne pas brider l'innovation, mais pour limiter le pouvoir de marché de ces géants.
T'évoquais le métaverse. Si tu te projettes, tu penses que c'est vraiment quelque chose dans lequel on va tous entrer ou on va avoir un besoin de réalité qui va peut-être s'accentuer à l'inverse. Après, il peut y avoir deux effets concomitants et complètement extrêmement opposés qui se développent en parallèle.
Mais je pense que c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Et d'ailleurs, c'est un mécanisme qui pourra être créateur de fortes inégalités. C'est-à-dire que des gens qui ont la capacité financière de vivre des expériences dans la vraie vie, d'aller de voyager, de prendre l'avion, d'aller dans des endroits, de visiter des sites, etc., le feront toujours avec très grand plaisir et satisferont ainsi leur curiosité. Des gens qui n'ont pas les moyens peut-être de se déplacer seront peut-être réduits à expérimenter une expérience métaverse en réalité augmentée, en réalité virtuelle, en réalité mixte, je sais pas. Comme dans le film Ready Player One, en fait, où les gens qui se retrouvent dans le métaverse sont des gens pour qui la réalité est tellement horrible qu'ils doivent se réfugier dans ce monde bis qui est plus coloré, qui est plus sympathique, où ils ont des avatars qui sont plus charmants. Donc, il y a un risque, je pense. Il y a la possibilité d'avoir des expériences absolument incroyables, mais il y a un risque d'accroissement des inégalités expérientielles des gens, je pense, avec ce métaverse.
Si on est dans l'évocation des films et des séries, je te propose un docu, je n'avais pas prévu, mais j'étais assez sensible à Social Dilemma, que tu as derrière nos écrans de fumée, que tu as peut-être vu, qui posait la question aussi pour nos démocraties et avec les responsabilités que tu as pu avoir. J'imagine que c'est des sujets qui te font réfléchir, à minima aussi réagir. Et je serais curieux d'avoir ton regard sur ces dérives-là aussi.
C'est ce que je te disais tout à l'heure dans la première question sur la première loi ou la première réglementation. C'est qu'effectivement, il y a de plus en plus un risque que un certain nombre de technologies mal employées ou employées à mauvais escient puissent vraiment avoir une influence majeure sur les consensus démocratiques, sur les mécanismes démocratiques, sur les mécanismes électoraux, sur les opinions. Je regardais l'autre jour des deepfakes, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les trucs de capture volumétrique, la possibilité d'animer des visages, de reconstruire des voix, est tellement aboutie que vous pouvez faire un discours à n'importe qui. C'est confondant de réalité et c'est très dangereux. Vous pouvez lui faire dire n'importe quoi. Donc ça, mélangée aux fake news, au complotisme, etc., c'est quand même un cocktail assez détonnant. Donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cette inquiétude. C'est que vraiment, on rentre dans une zone un peu de danger, quoi.
Comment on peut assurer à nos auditeurs que c'est bien Fleur Pellerin qui vient d'eux?
Peut-être un bot.
On a un autre podcast qui s'appelle Philosophie, qui donne la parole aux 6-18 ans sur leur rapport au digital, leurs usages numériques, bref, leur rapport à soi et aux autres dans cette ère qu'ils vivent. Et ça pose pas mal de questions. Je sais pas si t'es maman, t'as peut-être des neveux, des nièces, j'en sais rien. Mais je serais curieux d'avoir ton regard sur ce qu'on peut dire à cette jeune génération pour la préparer au monde dans lequel finalement ils sont déjà. Sans forcément d'ailleurs que ce soit donneur de leçons, et finalement on prend aussi pas mal de leçons à les écouter, mais...
Je pense que l'éducation à toute cette question des fausses informations, etc., est quelque chose de très important, et ça c'est vraiment... C'est de la transmission familiale, c'est vrai. Parce que les gamins, on en a trois, mais qui sont grands déjà maintenant, 17, 20, 22... Eux ont été un peu vraiment au cœur du développement de des fake news, du complotisme, des Illuminati, tous ces trucs. Et en fait, comme ils sont un peu... En fait, je pense qu'il faut que tout le monde devienne un peu geek pour comprendre les mécanismes qu'il y a derrière les réseaux sociaux, l'économie de la donnée, les algorithmes, etc. Comprendre que ça peut être biaisé. Enfin, avoir vraiment une espèce de culture générale de l'honnête homme de notre siècle, qui n'est plus celle du siècle précédent, pour comprendre les mécanismes de manipulation qui sont possibles sur Internet. C'est vraiment très important qu'on puisse comprendre de quelle manière on peut être très facilement manipulé. Je pense que c'est le moindre qu'on puisse faire. Après, vous ne pourrez jamais éradiquer le fait qu'on puisse tromper les gens de manière malhonnête,
etc. Et d'ailleurs, même en étant très éduqué, très informé,
absolument,
on peut parfois être trompé.
On peut totalement se faire avoir.
Évidemment.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
Je te propose donc de fermer les yeux, de t'allonger sur ce divan pas très confortable parce que ça reste une chaise, on n'est pas dans le métavers, je peux pas d'un claquement de doigts changer tout le décor. Je te propose de poursuivre l'histoire. On est en 1973, une jeune fille arrive sur Terre, elle s'appelle Kim, je crois.
Tout le monde s'appelle Kim en Corée. Non, c'est un nom qui est très très répandu, il n'y a que 5 noms. Mais... Ouais.
Et si tu devais poursuivre cette histoire, ce conte entrepreneurial ?
Écoute, c'est un truc, c'est marrant que tu me poses cette question parce que c'est vraiment quelque chose... j'ai pas trop réfléchi pendant très très longtemps. Et là, j'ai réfléchi un peu plus parce que je vais souvent en Corée. Donc forcément, j'étais jamais retournée en Corée de 73 à 2013, quand j'étais... Ou 2012, je sais plus, quand j'ai fait ma première visite officielle en tant que ministre du numérique. Donc jamais remis les pieds en Corée.
Parce que pas l'envie, parce que
ça m'intéressait pas. Ouais. Voilà, ça m'intéressait pas. Et en fait, quand je regarde maintenant ce qui m'est arrivé, donc bon, j'ai été adoptée par une famille très aimante, une enfance très heureuse. Après un parcours de méritocratie républicaine, j'ai des parents. Mon père a fait des études, mais ma maman n'a pas le bac. Elle a pas travaillé. Enfin, elle a travaillé très jeune pour nourrir sa famille, mais après, elle a arrêté de travailler. J'ai une grand-mère qui faisait le ménage.
Ouais.
Donc c'est vraiment un parcours de méritocratie typique républicaine, avec après moi les études, Sciences Po, l'ESSEC, l'ENA. Et donc, en fait, quand je suis retournée en Corée, pour eux, c'était vu de là-bas, parce qu'en fait, ils sont très, très attachés à l'ADN, en fait. Ce qui fait la nationalité, ce n'est pas le plébiscite de tous les jours, ce n'est pas une adhésion politique aux valeurs, à l'histoire d'un pays, c'est le sang. Et donc, pour eux, en fait, quand j'ai été nommée, ils trouvaient ça extraordinaire, parce que j'étais la coréenne du gouvernement français, en fait. Et quand j'y suis retournée, j'ai vu que ça déclenchait une espèce de ferveur, et tous les gens me disaient, on est fiers, hein. On est fiers. C'était bizarre, c'est comme si, en fait, j'avais accompli quelque chose qui rendait la Corée fière, quoi. Et j'ai compris progressivement, en y retournant un certain nombre de fois, que finalement, voilà, je suis partie, j'étais dans une rue, dans un bidonville. On m'a trouvée dans ce bidonville et je suis arrivée dans la salle, à l'Élysée, dans la salle du Conseil des ministres, dans un pays respecté. La France, avec une tradition historique, avec une culture. Et pour eux, c'était vraiment l'arc d'une série télévisée, mais improbable, quoi. Donc, je pense que j'ai, d'une certaine façon, ma trajectoire de vie, qui se poursuit dans l'entrepreneuriat, représente pour eux un peu le raccourci, ou pas l'accéléré, parce que ça s'est fait pendant le miracle économique, en fait, mais une espèce d'allégorie du miracle économique coréen. du rattrapage. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont projetées en Corée dans mon histoire.
Bah, ils font des super séries en Corée, donc peut-être un jour la série qui va avec.
Ça, c'est vraiment c'est très fascinant. C'est un pays qui a réussi, justement, parce
culturellement,
que...
Culturellement,
parce que la réussite économique était là, mais qui trouvait que la réussite diplomatique ou de smart power n'était pas là. Ils ont mis en place... C'est pas juste depuis Parasite, c'est pas juste depuis quelques mois. Ouais, ça fait 30 ans que cette politique de Hallyu, comme on dit, donc de vague coréenne, de vague culturelle coréenne, ça fait 30 ans qu'elle a été mise en œuvre par les gouvernements successifs. Et donc, aujourd'hui, c'est le résultat. C'est comme quand on dit, il y a 26 licornes, c'est génial. Mais non, mais c'est le résultat d'un processus long. Et ça, aujourd'hui, la Corée, la K-pop, etc., tout ça... Les graines ont été plantées il y a 30 ans. C'est très intéressant d'un point de vue de politique publique.
Tu as été ministre de la Culture, aussi de la Communication. C'est quoi le soft power français? C'est quoi qui fait le soft power partout?
Justement, je suis un peu jalouse, je dois le dire. Je l'ai dit à des journalistes coréens récemment. Je suis un peu jalouse parce que je trouve que les Coréens sont, en réalité, quand on regarde bien le paysage culturel mondial aujourd'hui, sont un peu les seuls à proposer un contre-modèle à Hollywood. Et sont les seuls à être capables de projeter de la culture à l'international, de la culture commerciale, sans avoir honte qu'il y ait une dimension commerciale aux industries créatives. Et honnêtement, c'est une puissance qui est hallucinante. Parce que quoi, ça, c'est pas juste que ça rapporte des royalties, c'est que ça donne envie aux gens d'apprendre le coréen, ça donne envie aux gens d'aller visiter le pays. C'est une influence diplomatique qui est énorme, en fait, d'avoir une culture qui est séduisante et attractive.
Quand on est capable de toucher comme ça à travers la planète, c'est qu'on arrive à toucher du doigt quand même des sujets très universels.
Exactement, et le traiter d'une façon qui puisse être reçue par tout le monde. Et la France, malheureusement, je pense, a eu évidemment dans son histoire des moments de rayonnement extrême à des siècles passés. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'on soit capable de cette manière de comprendre quelque chose d'universel ou de faire passer un message universel à travers nos industries créatives. C'est des phases, c'est des cycles. Et puis peut-être que, il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques années, c'était la culture japonaise, manga, etc. Là, la culture coréenne est vraiment en train de prendre le dessus là-dessus. Donc, il y a des cycles.
Donc, comme il faut une thèse d'investissement, il faut des thèses culturelles. Ça peut se penser comme ça ?
Je ne sais pas, mais honnêtement, j'ai eu cette thèse axée sur l'Asie, plutôt du Nord-Est, mais donc plutôt axée sur la Corée. Et honnêtement, c'était avant qu'il y ait toute cette dinguerie autour de la... Enfin, c'était déjà présent en Asie, mais c'était pas très présent en Occident. Il n'y avait pas toute cette dinguerie autour de Parasite, Squid Game, BTS, etc. C'est venu après. Et en fait, je pense que ça valide a posteriori mon choix de coopérer avec un pays qui a beaucoup de choses à dire au monde en ce moment. Je crois que c'est un moment coréen. C'est très intéressant. Et en tant qu'ancienne ministre de la Culture, moi, j'avais beaucoup essayé de travailler sur le français. C'était un instrument de soft power extraordinaire. La langue française, pour les pays francophones, l'enseignement du français à l'étranger. Enfin, il y a plein de choses qui devraient être mieux utilisées. Et j'étais un peu frustrée parce que je trouvais qu'on ne savait pas tellement combiner culture et action internationale parce qu'il y avait plusieurs ministères qui étaient en charge de ça. Et quand il y a plusieurs ministères, c'est très difficile de s'entendre.
Je reviens sur cette fabuleuse trajectoire républicaine et donc je repars un peu dans l'enfance. J'imagine que, gamine, tu imaginais pas devenir ministre, tu imaginais peut-être pas non plus diriger un fonds d'investissement, tout ça, ça se fait au cours du chemin, mais tu rêvais de quoi, si tu rêvais?
Bah, honnêtement, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout répondre à cette question. Je suis quelqu'un je sais rarement ce que je vais faire dans 3 mois, quoi. Donc, je suis incapable d'avoir des plans et de m'y tenir. Je suis pas du tout quelqu'un qui a un plan de carrière, j'étais fonctionnaire, j'étais dans la haute fonction publique, j'aurais jamais imaginé qu'un jour je ferais partie d'un gouvernement, j'aurais jamais imaginé qu'un jour je ferais un fonds d'investissement.
Donc, je vais poser du coup la question peut-être un peu différemment. Avec le recul, quelles ressources tu vois dans la jeune fille que tu étais qui a servi à suivre en fait ces chemins qui se sont offerts à un moment de la vie?
Je pense que c'est très paradoxal en fait, parce que je suis quelqu'un qui est très épicurien, j'adore zoner, j'adore glander, j'adore
le dance floor.
J'adore le dance floor, j'adore faire. Enfin, j'aime bien m'amuser. Mais je pense que j'ai quand même réussi, quand on voit mes études, quand je dis ça aux gens, ils me disent ouais, mais bon, t'as vu, t'as fait une prépa, etc. C'est pas cohérent. Mais je pense que j'ai réussi à canaliser un peu quelque chose, à discipliner un peu mon envie de faire un peu n'importe quoi, dans un truc qui était ultra cadré, ultra strict, une classe prépa, Sciences Po, l'ENA, etc. J'ai réussi à rentrer dans ces rails. Et en fait, maintenant, quand j'y réfléchis, je me dis, mais c'est quand même bizarre, parce que c'était pas du tout c'était pas du tout moi. Et je pense qu'en fait, une de mes forces, ça a été d'être capable de faire taire l'entropie en moi et d'arriver à me focaliser, alors que c'est pas tellement ma façon de fonctionner, d'arriver à me focaliser un peu sur, pas nécessairement un objectif, parce qu'en fait, au moment où je faisais toutes ces études, je savais pas très bien pourquoi. Enfin, je me disais pas, je fais l'ENA parce qu'après, je veux être ministre ou je veux être à la Cour des comptes.
Non, mais dans ce cas-là, c'est être focus sur l'instant présent.
Je pense que j'arrivais quand même à me dire, OK, t'as choisi un bon levier pour faire des trucs pas mal. Tu sais pas exactement bien quoi, mais ça sera sans doute pas mal. Donc, fais le bien et puis après, tu verras quoi. Et je pense que j'ai toujours été un petit peu comme ça. Donc, à la fois capable de me focaliser sur un effort à un moment donné, même sans objectif très, très précis, et opportuniste, au sens où capable de saisir des hasards de la vie, des rencontres, etc. Et parce qu'en fait, c'est le truc le plus magique. Moi, tout ce qui m'est arrivé se lie à l'aune de des hasards fabuleux, quoi. Donc je suis toujours ouverte aux rencontres, à des opportunités. En fait, j'adore connecter des points. En fait, je vois bien maintenant, en vieillissant, en plus, j'ai quand même fait beaucoup de choses par le passé. Ce qui me plaît aujourd'hui, c'est effectivement de... Ah, bah, il y a Franck Le Bouchard, je pourrais lui présenter un tel parce que pour son business. En fait, j'adore, voilà, connecter des choses qui vont être créateurs de valeur, pas seulement de valeur financière, mais de valeur humaine, relationnelle, de création artistique, etc. C'est ça qui me plaît. Essayer d'enrichir par la mise en relation, des contacts, des rencontres. C'est ça que je trouve réjouissant dans la vie.
Est-ce que la première étape pour connecter ces points, c'est la curiosité?
Ouais. Sans aucun doute. Et la capacité d'absorber, d'écouter. Parce qu'en fait, il y a des gens, on se rend compte, hein, plus on avance dans la vie, qui fait comme beaucoup de gens qui s'écoutent eux-mêmes, mais qui n'écoutent pas beaucoup les autres. Et donc, la curiosité, et nous, ce que j'adore dans ce métier, c'est qu'on n'est pas un fond spécialisé dans une technologie en particulier. Donc, on voit.
Il n'y a que des choses à apprendre.
Mais c'est incroyable. Et y compris, d'ailleurs, ce qui est fascinant aujourd'hui, c'est que je vois des gens qui ont la moitié de mon âge, qui viennent me raconter ce qu'ils font, et je suis éberluée par leur maturité, leur intelligence, leur rapidité. Et je me souviens, moi, au même âge, j'ai l'impression d'avoir, d'avoir des gens qui sont 10 fois plus matures et 10 fois plus smart que moi au même moment. Donc, et ça, je trouve que c'est formidable dans ces métiers où on voit énormément, on est exposé à beaucoup de gens qui travaillent dans l'innovation, de pouvoir en permanence se mettre sous tension pour imaginer ce que sera le monde de demain, être inspiré en permanence, rencontrer des gens plus intelligents que soi. Donc oui, il faut de la curiosité, il faut être prêt à accueillir le nouveau, quelque chose qui vous met un peu en danger, qui vous déstabilise,
et puis être
prêt à être dérangé.
Derrière l'innovation, oui, c'est qu'il y a un regard sur le présent.
Oui,
pour penser le...
Absolument, absolument. Mais c'est ça qui est, je pense que c'est ça qui est, enfin, en tout cas moi, qui me plaît beaucoup dans ce métier.
Je voulais voir si tu allais dodeliner de la tête pour valider la thèse Dancefloor. Question rapide, réponse plus ou moins rapide, comme tu le sens. Premier renoncement.
En fait, il y en a eu... Bon, j'ai une mémoire qui est assez courte, hein, donc j'ai envie de parler de mon expérience gouvernementale. Non, mais j'ai envie de parler... Parce que, en fait, quand t'es au gouvernement... quand t'as un portefeuille ministériel, t'as tellement de combats possibles, tu peux en choisir que 3, quoi. 3 ou 4. Bon, c'est un peu ridicule de dire ça comme ça, mais en gros, tu peux pas mener un nombre infini de combats parce que tu vas t'épuiser. Tu dois lutter contre des résistances d'écosystèmes, contre des problèmes budgétaires, contre des conservatismes, etc.
Donc, à multiplier les combats, voilà. On gagne rien.
Et donc là, je peux te dire, quand t'es au gouvernement, à la fois, c'est merveilleux parce que quand t'as été fonctionnaire, comme c'était mon cas, tu te dis, enfin, je suis vraiment à un endroit où je peux avoir un impact sur la vie des gens, rendre un truc un peu meilleur, et peut-être après, les gens seront contents. Et donc ça, tu te dis, bah, pour une fois, je suis vraiment en capacité, pas juste d'exécuter ce que quelqu'un d'autre dit, mais là, de dire ce qu'on peut faire pour améliorer la vie des Français.
Et il suffit pas de dire.
Pour faire ça, tu dois renoncer à plein d'autres trucs que tu aurais envie de faire et qui rendraient la vie des gens meilleure, mais que tu peux pas parce que tu peux pas avoir l'énergie de défendre tous tes combats en même temps. Donc c'est des moments à la fois de super grande exaltation mais de grande frustration parce que une victoire implique forcément plein de renoncements avant pour arriver à cette victoire. Donc pour moi, c'était une expérience un petit peu paroxystique de ça, d'être membre du gouvernement.
Premier coup de culot.
Je sais pas si je suis très cul. Oh, je pense que j'ai dû faire des petits. J'ai dû faire des petits coups. En fait, quand les gens vont penser que je suis obsédée par mon expérience ministérielle, mais comme j'ai pas beaucoup de mémoire avant, je vais dans le temps court. Quand on est arrivé au ministère de l'économie numérique, moi j'avais toujours refusé de faire du cabinet avant parce que je suis vraiment socialiste et donc j'avais pas. Quand on est fonctionnaire, parfois on peut être appelé par la majorité quelle qu'elle soit, mais moi j'avais aucune expérience de cabinet et les gens qui étaient avec moi étaient aussi plutôt des socialistes qui avaient pas du tout frié avec la droite avant, donc on était tous très neufs. Et en fait, du coup, je pense que ça nous a donné un culot, et notamment dans mes relations avec Arnaud Montebourg, qui était mon chef. Donc, c'est pas très précis, j'ai pas d'exemple en particulier, mais je pense que ce côté, un peu sans peur, sans reproche, quand on est arrivé, qu'on s'est installé à Bercy, nous a donné la capacité de faire pas mal de trucs au culot.
Tu parles de tout ce temps ministériel, du coup ça m'amène à une question. Benoît Hamon chez Singa, Axelle Lemaire là, qui a annoncé la semaine dernière à la Croix-Rouge, Fleur Perrin du coup chez Corellia Capital. Au-delà du fait qu'on vit forcément aujourd'hui 1000 vies dans une seule vie, est-ce qu'à l'image de tes camarades de promo ministériel, tu juges que ton action actuelle est aussi une manière de faire de la politique?
Non.
Mais très bien.
Non,
voilà,
alors, un peu. Si, parce que quand j'ai transitionné en fait du public vers le privé, effectivement, comme j'avais fait la French Tech, j'avais quand même beaucoup fréquenté l'écosystème de l'investissement, etc. Honnêtement, en étant moi-même investisseur, en aidant des boîtes comme De Vialet à croître, etc. Je trouve que je fais aussi un peu de la French Tech, quoi. Donc j'avais le sentiment de faire quand même un truc qui était utile. Après, on est dans le privé, on va pas se le cacher. Hein. Je suis pas en train de dire, je suis dans une ONG qui promeut la French Tech. Donc.
Mais si on part du principe que tout est politique et que l'économie...
Oui, on peut. Peut-être des gens ont besoin de se dire ça pour se rassurer, etc. Moi, honnêtement, j'ai toujours eu le sentiment que j'avais besoin de faire quelque chose que je trouvais qui avait du sens et qui était un peu utile, etc. Et honnêtement, là, quand je le fais, quand j'aide les entrepreneurs, je trouve ça génial. Alors, c'est pas une mission d'intérêt général, c'est aider des entrepreneurs, mais je trouve que c'est utile d'une certaine façon et je trouve qu'aussi, c'est travailler à la souveraineté économique française, voilà. Donc, moi, je trouve ce sens-là...
Générer de la croissance et générer de l'emploi.
Donc, moi, je trouve ce sens-là et je trouve qu'il est pas si éloigné de ce que je recherchais à faire quand je lançais la French Tech, etc. Donc, il y a une forme de continuité. Mais après, je suis pas dans une ONG. Il y a d'autres choix. C'est pas du tout la même chose que Benoît ou que Axel ou que Najat. Voilà. C'est un autre choix. Je suis dans l'économie réelle.
Premier salaire
quand j'étais à l'ENA. Quand on est à l'ENA, on est fonctionnaire stagiaire. Donc, on est payé comme si on était des stagiaires, en fait, de la fonction publique. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand on est classé à la fin de l'ENA, on signe un papier pour s'engager à travailler 10 ans pour l'État. C'est
pour
bien normal, puisque
française.
Les études ont été payées par les contribuables. Et donc, on doit 10 ans de service à l'État. Donc, mon premier salaire, c'était mon salaire d'élève, de fonctionnaire stagiaire à l'ENA.
Premier big mistake,
mon permis de conduire.
En deux fois, en trois fois.
Ouais, c'est un peu la honte.
T'habites à Paris?
Non, même
non.
Pas.
Ah oui, alors là, c'est compliqué. T'aurais une circonstance atténuante, mais là,
je peux pas. Mal, quoi.
Je te propose de passer à...
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Alors là, c'est le moment, Fleur, où en fait, le micro, les auditeurs, le temps est à toi pour le sujet de ton choix. Donc ça peut être ton projet de troisième qui est malheureusement pas passé à la postérité ou n'importe quel autre sujet.
Non, je vais reparler, je suis une fixette en ce moment, je suis assez obsessionnelle en fait moi. Donc je marche un peu par fixette et donc en ce moment, je fais une grosse fixette sur ces histoires de métaverse. Mais probablement aussi parce que, alors d'abord parce que bon, ça n'a rien de nouveau et en fait, j'ai été sur Second Life...
Faut c'était
pas trop le dire parce que ça date vraiment les personnes. Hein. C'est un peu comme le carbone 14.
Donc, ça se trouve, on s'est rencontrés là-bas
vraiment,
et c'était pas en 2012.
On est vieux. Ouais. Mais donc, évidemment, ces geekeries me plaisaient toujours. Donc, j'avais été sur Second Life. Et en fait, je travaille avec Naver, qui est cette boîte coréenne, et ils ont fait Zepeto. Et Zepeto, donc, c'est un métaverse. Et je trouve assez fascinant. Je trouve que cette année 2022 va être un moment très intéressant parce qu'on voit toutes les marques. Alors, il y a plein de conneries, des choses qui vont être ludiques, pas forcément utiles, mais je pense qu'il va y avoir en 2022 une explosion des manifestations d'intérêt de marques, surtout dans le lifestyle, le luxe, le métaverse n'est encore pas pas matures. Il y en a plein, on ne sait pas encore lequel sera dominant, s'il y en aura un qui sera dominant. Mais je trouve que c'est un moment de bascule à la fois sur les modèles économiques et aussi sur la philosophie qu'il y a derrière, parce que c'est, tout ça est un peu compliqué. Le Web3, c'est assez compliqué parce qu'on parle beaucoup de blockchain, etc. Mais c'est peut-être l'opportunité, on parlait de privacy tout à l'heure, pour les gens de reprendre le pouvoir sur leur data, sur la manière dont leurs data sont exploitées, d'avoir des nouvelles formes de titres de propriété sur des choses qui sont digitales. Et donc, je trouve que c'est un moment, philosophiquement, après l'Internet 2, après l'Internet des plateformes, on arrive dans quelque chose qui peut-être va redonner le pouvoir aux gens. Et je trouve que c'est assez excitant.
En quoi le pouvoir ?
Bah parce que aujourd'hui, tu n'es pas propriétaire de tes données. En fait, on te dit, il y a des disclaimers, tu peux faire du opt-out, etc. Mais en gros, les plateformes, aujourd'hui, c'est elles qui collectent tes données, c'est elles qui les possèdent. Elles sont pas...
Et dans le métaverse, ce ne sera pas pareil.
Bah, on ne sait pas. Pour l'instant, on est en train de construire.
Moi, je me permets de mettre un doute, mais
probablement, certains métaverses commerciaux, on voit bien qui est en train de se positionner sur le sujet. Bien sûr, je pense que ceux-là garderont la même philosophie.
Mais il y en aura d'autres.
Il y en aura d'autres. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, derrière cette idée de Web3, avec l'idée d'avoir des choses qu'on peut acheter en NFT, qu'on peut revendre, qui repose sur des mécanismes de finance décentralisés, en fait. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, parce que c'est pas juste des trucs de business model. Il y a aussi derrière une réflexion sur comment on redonne le pouvoir aux gens sur leurs propres données, comment on assure la portabilité des choses. Il n'y a pas de portabilité aujourd'hui si tu as des trucs sur ton post, sur Facebook, si tu achètes un truc sur Facebook, c'est difficile de faire sur Twitter, etc. Donc, il y a peu de porosité entre ces univers. Et là, en ce moment, on se demande si finalement un truc que tu auras acheté sur, Decentraland, tu pourras le mettre sur Zepeto ou sur Meta, j'en sais rien. Et en fait, les gens qui sont un peu idéalistes aujourd'hui du Web3 pensent que cette portabilité, le côté un peu universel de la circulation des objets digitaux pourrait être assuré, que ce serait super et que ça redonnerait de nouveaux droits aux utilisateurs. Voilà. Donc, je trouve que ce qui est intéressant, c'est l'aspect à la fois philosophique.
Casser un Eldorado intellectuel aussi.
Qu'est-ce que ça va devenir ? Ça peut devenir pas le pire, mais enfin, comme maintenant, ou un truc vraiment meilleur et un truc vraiment différent. Ça que je trouve intéressant. Et après, je trouve que d'un point de vue purement business, de voir toutes les marques qui sont en train de faire les Adidas, les NFT, les sacs Gucci, etc., je trouve c'est très, très marrant parce que toutes ces marques un peu legacy, elles sont en train de vouloir s'emparer de ce sujet du Web3. Et je trouve que ça va être rigolo.
Oui, c'est comme tous les outils, c'est ni bien ni mal. Ça dépend de ceux
Exactement.
Qui les conçoivent et évidemment de ceux qui les utilisent.
Wow.
Une claque intellectuelle que tu as vécue et que tu aimerais partager.
Euphoria. C'est pas une claque intellectuelle, c'est une claque audiovisuelle. Je suis présidente d'un festival de séries, donc je regarde beaucoup de séries. Je regardais beaucoup avant quand j'allais souvent en Corée, donc je prenais l'avion, c'était long, et souvent je chargeais une bonne saison d'une série. Bon là, j'ai pas voyagé depuis longtemps, mais
Euphoria,
c'est pour moi ce qui est très intéressant dans cette série qui décrit un peu le parcours d'une jeunesse camée américaine. Middle class, assez abusé. C'est très très bien filmé. Le cast est éblouissant. C'est glauque un peu, hein. C'est assez triste.
J'ai pas vu.
Mais ça montre à quel point il y a une forme de liberté dans les sujets traités dans les séries, beaucoup plus forte que dans les longs métrages maintenant. Enfin, il y a une variété de sujets traités, une liberté de ton. Une crudité parfois des choses qui est assez dingue. Et pour des artistes, je pense que pouvoir développer des caractères comme ça sur le temps long, avec autant de liberté pour montrer des choses, pour dire les choses, je trouve que c'est assez incroyable. Cette série est vraiment magnifique, quoi. Avec Zendaya, extraordinaire. Enfin, un cast magnifique, très belle direction d'acteur. Plein d'innovations dans la façon de mettre la musique, utiliser la musique. Grosse claque, en fait.
On est sur 40 nuances de Sista. Tu as été choisi, je l'ai dit tout à l'heure, par Franck Le Bouchard. Si toi-même, tu avais dû mettre en lumière une femme entrepreneur, tu aurais choisi qui ?
Donc moi, j'aurais envie de nommer Juliette Lévy, qui a fondé Oh My Cream, que j'ai rencontrée récemment à l'occasion de la remise d'un prix de la femme entrepreneur de l'année, c'était l'année dernière. Je la trouve super.
Le prix Why?
Non, c'est le prix Bold Woman de Veuve Clicquot. Et elle s'est attaquée à un secteur qui est quand même déjà bien encombré, la cosméto, le soin, etc. Mais elle le fait, elle a une approche qui est ultra ESG, super smart en marketing. Elle a un concept de soins, de boutique que je trouve fort. Et cette femme est super, quoi. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est pas la même génération, elle est plus jeune que moi, beaucoup plus jeune, mais c'est une formidable femme entrepreneur et voilà, j'aimerais bien que vous la receviez.
Bah écoute, on va pousser en tout cas pour des entrepreneurs qui n'auraient peut-être pas comme ça l'entrepreneur en tête, on saura qui suggérer. Juliette Lévy, Oh My Cream. Merci à toi, Fleur.
Merci
je pense
beaucoup.
Qu'on a respecté le timing. Tout le monde me dit oui de la tête dans les studios. Merci beaucoup. Je ne vais pas te donner rendez-vous dans 9 ans, 8 mois, 7 heures et 5 jours. Mais j'espère à très bientôt.
Merci beaucoup.
À très bientôt.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.